associative non commerciale du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon, vous présente le festival de photos Images Singulières à 7. Pendant une heure, Radio FM Plus et Divergence FM accueillent différents invités pour vous présenter ce festival. Une émission en direct du Chai des Moulins à 7.
Eh bien, nous voici donc effectivement au festival Images Singulières à 7 en présence de Monsieur Favier, directeur artistique. Monsieur Favier, bonjour.
Bonjour.
C'est donc la 7e édition de ce festival.
Oui, elle a commencé mercredi et les 4 grosses journées, c'est jusqu'à dimanche. Et après, les expositions durent 2 semaines de plus. Mais voilà, on a pris notre vitesse de croisière et les nuits sont longues ou courtes selon qu'on regarde les choses. Mais pour l'instant, tout se passe très bien.
Ce festival, chaque année, fait venir de plus en plus d'adeptes de la photo ou simplement des curieux venir voir ces expos. C'est un plein succès jusqu'à présent. D'ores et déjà, vous pensez que vous allez battre un record cette année ?
On n'est pas là pour battre des records, mais effectivement, la mixité des publics, c'est un peu notre tasse de thé. C'est-à-dire, il y a la gratuité qui attire des gens qui ne viendraient peut-être pas naturellement nous voir. Et puis, petit à petit, effectivement, on a acquis une image de marque dans le milieu un petit peu plus culturel de la photographie. Et les gens viennent un peu de partout. Cette année, il y a des gens qui viennent des États-Unis, du Chili, bien sûr, puisqu'on a invité, mais ils viennent du monde entier.
Alors, chaque année, donc, c'est un regard sur le monde. Chaque instantané, chaque photo est un instant de vie. Depuis le temps où vous avez ouvert cette exposition, ouvert sur le regard sur le monde, qu'est-ce qui a évolué, ce regard sur le monde ? Est-ce que le monde a changé ? Est-ce que le monde est resté statique comme une photo ?
Je ne sais pas si une photo est aussi statique que ça, parce qu'il y a plein de lectures possibles, donc on pourrait débattre de ça, mais c'est peut-être pas le moment. Mais en tous les cas, effectivement, le monde vacille, bascule, se tord dans tous les sens. Et ben, les photographes, ils font pareil. Hein. Économiquement, ils sont en souffrance, mais ils continuent majestueusement, à produire. Ils sont passionnés, donc ce qu'on récupère chaque année, c'est effectivement un instantané, mais pas un instantané.
C'est pas figé, c'est-à-dire selon.
C'est pas figé, c'est une image du monde. C'est-à-dire que l'optique documentaire, elle permet. C'est-à-dire les photographes qu'on accueille en général sont dans cette optique documentaire où le temps passé est une vertu cardinale. Donc c'est pas une image du monde à l'instant T comme je le disais tout à l'heure, mais c'est plutôt c'est difficile à expliquer comme ça, mais par exemple hier au soir en projection on a eu un travail extraordinaire de Darcy Padilla aux États-Unis qui a suivi une jeune femme pendant 25 ans jusqu'à ce qu'elle meure, et maintenant elle suit ses enfants. Et c'est ça la photo documentaire, c'est-à-dire que le monde ne s'arrête pas, les photographes non plus, donc des fois c'est dur hein, ce qu'on montre, mais je pense que si on fait le tour de nos images, il n'y a pas de cadavre en tous les cas, il hein. Y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de l'amour, il y a plein de choses, voilà, après on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas changer le monde en tous les cas.
Ce festival a-t-il une thématique ou bien est-ce que la thématique vient effectivement des invités et des participations que vous souhaitez, avec qui vous créez des partenariats ?
Oui, alors une programmation, ça se fait de façon, on part d'une feuille blanche, de façon un peu erratique. Après, il y a des rencontres. Il se trouve que je suis allé à Valparaiso, donc ça a changé tout un pan du festival. D'un seul coup, je me suis dit, ouais, il faut faire quelque chose avec ces gens-là. On a de temps en temps des propositions formidables. Il y en a plusieurs. On essaie de les assembler, comme la thématique sur les frontières. On a 4 propositions extrêmement différentes sur un plan photographique, hein, mais qui finalement... chaque photographe a son point de vue, et comme nous on a une lecture, on va regarder les images d'une manière différente des autres. Les photographes aussi abordent les sujets d'une façon différente. Dieu merci, la photographie est multiple, elle permet, elle est d'une richesse extraordinaire, parce qu'on photographie, si vous mettez plusieurs photographes au même endroit, eh ben, ils ne vont pas vous faire la même photo. C'est un petit peu la même chose, vous souvenez de Gauguin et Van Gogh allaient peindre ensemble le matin, ils partaient, ils étaient dans un champ, et le soir, ils n'avaient pas fait la même chose, on ne reconnaissait pas le lieu. Donc c'est ça la liberté d'expression finalement.
Monsieur Favier, vous citiez Valparaiso. Valparaiso est un port. Sète est un port. Est-ce qu'il y a un lien qui rejoint les ports et les photographes?
C'est pas un port, Valparaiso, c'est le port. Quand on arrive à Valparaiso, c'est une ville... La vision est extraordinaire parce que c'est sur une faille sismique, donc il n'y a pas de verticale comme dans tout, c'est pas pollué, enfin il y a très peu de verticale. Et donc il y a plein de petites maisons de toutes les couleurs, il y a plein d'escalators brinque-ballant dans tous les sens, c'est un romantisme fou, c'est vraiment comme si l'image du port mythique s'était arrêtée et c'est ça quoi, et les gens sont raccord avec cette image-là, donc... Effectivement, Sète a un petit peu cette typicité. C'est pas une ville normale, Sète non plus, mais c'est pas la même échelle. Mais ici aussi, on a des caractères, on a une petite montagne, on a plein de choses. Disons que Valparaiso, c'est le port du sud. Sète, c'est un port du sud et c'est un petit Valparaiso. Voilà. Donc les liens étaient. On est fiers de s'associer à une ville comme ça parce que.
Alors j'étais curieux de savoir comment est-ce que vous faites pour choisir ou contacter tel ou tel photographe. Comment est-ce que vous entrez en relation? Qu'est-ce qui vous rend sensible à tel regard ou à tel regard? Je ne dis pas tel ou tel objectif, mais à tel regard, parce que c'est une manière de voir le monde, de voir l'autre.
Alors déjà peut-être que je suis photographe moi-même, donc je rentre plus facilement dans la mécanique... Dans la photographie contemporaine, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur la forme, qui sont un peu sur la forme, sur le superflu, qui ne sont pas très profondes. Et un photographe, tout de suite, il comprend, il regarde, il explique. Il se demande comment a fait l'autre photographe. On lit plus profondément, je pense, les propositions qu'on reçoit. Et donc, déjà, ça aide beaucoup. Ensuite, maintenant, ce qui a changé depuis le début du festival, c'est que les photographes se proposent à nous. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on ramait pour aller chercher quelques grosses pointures dans le monde. Maintenant, on a des propositions, par exemple pour faire la résidence, de gens, je suis surpris parfois, extrêmement installés, extrêmement connus, qui veulent venir à Sète. Parce que c'est petit, mais c'est nerveux et ça commence à attirer.
Alors quand vous dites résidence, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis?
Alors résidence, c'est chaque année, on invite un photographe. On lui donne une carte blanche sur la ville de Sète, on l'enferme pendant ça dépend 4-5 semaines à Sète. Il n'y a pas de règle pour cette résidence, simplement il n'a pas le droit de sortir de la ville pendant sa résidence. Et il doit photographier Sète et ses habitants. Donc là on montre la 8e résidence cette année, donc à chaque fois il y a un livre, une exposition, et à chaque fois si vous regardez la litanie déjà des travaux proposés, ça n'a rien à voir d'une année sur l'autre quoi. Donc ça corrobore ce que je vous disais sur la richesse de la photographie et des regards. Et cette année, c'est particulièrement flagrant. C'est, on dirait Twin Peaks. Enfin, c'est une ville très étrange que nous montre Bickel Porter, qui est une très jeune photographe de l'agence Magnum. C'est des rencontres nocturnes, c'est des paysages nocturnes. Même moi, j'ai du mal à coller ce qu'elle a fait l'image que j'ai de Sète, mais c'est formidable.
Justement, elle a pris le parti pris de photographier Sète la nuit, et ça peut paraître quelque peu surprenant quand on connaît la vie quotidienne, on peut dire ne serait-ce que d'un port de pêche, que d'aller photographier la nuit.
Oui, mais c'est sa façon de travailler, Bic. Depuis qu'elle est sortie des Beaux-Arts en Belgique, elle rencontre des gens la journée. Elle va chez eux le soir, elle les photographie chez eux le soir. Donc elle a mis en place ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que la journée, elle rencontre des gens, elle leur dit voilà, est-ce que vous voulez que je vienne chez vous ce soir? Donc on mange, on boit, et après on fait les photos. C'est assez fourbe, finalement, un photographe, parce qu'il vient manger chez vous, mais il veut vous photographier. Donc il sait, on va boire un peu, on va se désinhiber, on va finir par... parce que la photographie c'est 95% de contact, hein, appuyé sur l'appareil, on est bon, on n'est pas bon, mais si on n'est pas capable d'aller vers les autres et de les photographier, il faut changer de métier. Donc elle est très très forte pour ça. Enfin, je vous conseille aussi d'aller voir ses travaux précédents, hein, sur la Russie, sur les États-Unis. Elle a que 28 ans, ça va devenir une immense photographe, ça c'est, il n'y a aucun doute.
Et justement, vous avez donc peut-être revenir sur le festival, vous avez souhaité donc faire participer différents lieux pour pouvoir exposer. Vous pouvez citer un peu les lieux auxquels il faut se rendre?
Alors, il y a les lieux... Image Singulière et l'association C'est à voir qui porte le festival a ouvert plein de lieux à Sète, la chapelle du quartier haut, c'est nous qui l'avions ouvert à l'époque. Donc à la chapelle du quartier haut, il y a la résidence de Bicke Le Porter. Au théâtre de la mer, à la salle Tarbourièche, il y a une proposition de Julien Labislet sur New York, tout à fait étonnante. Donc ça, c'est deux lieux qui sont ouverts, qui sont institutionnels à Sète. Il y a la maison de l'image documentaire où l'association est installée, qui est face au théâtre Molière, à l'ancien théâtre Victor Hugo, où il y a trois expositions, deux sur les Indiens d'Amérique et une sur une petite partie du Vermont. Donc on peut dire qu'elle est états-unienne, cette maison de l'image documentaire. Et il y a nos lieux aussi très, très particuliers, l'espace Boyer qui est sur le quai de Bosque, qui est une ancienne usine de confection et qui est un très bel espace d'exposition. Le Chez les Moulins où nous sommes installés, qui est, enfin, je vous laisse deviner, c'est cette friche industrielle à qui on prédit un avenir culturel qui est à la fois rustique mais à la fois magnifique. Et juste à côté, dans le même ensemble architectural, ce qu'on appelle le boulodrome, où on a, alors là on a une thématique sur les frontières qui pour moi est vraiment aussi un lieu pivot cette année de la programmation, avec quatre photographes. Et les boulistes peuvent venir jouer pendant les expositions. Ça participe un petit peu du mélange, on leur laisse un petit peu un accès parce qu'on aime bien finalement que ces publics, il n'y a pas de raison de cloisonner, il n'y a pas ceux qui sont les élèves de la culture et les autres, hein, on est dans un doux mélange.
Alors la photographie est une culture, c'est un regard sur le monde. Aujourd'hui n'importe qui peut prendre des photos. C'est tellement facile. Pendant très longtemps, c'était une pellicule qu'il fallait emmener ensuite chez le photographe. Là, aujourd'hui, avec son smartphone, on pilonne. Et parfois, on a l'impression que c'est dévalgaudé. Je cherche mon mot. C'est déprécié. Enfin, comment
désacraliser.
Désacraliser. Voilà. Comment dire qu'en fait la photographie c'est pas un tirage de mitraillette de Kalachnikov, non, c'est quelque chose de particulier, c'est rentrer dans un univers, c'est sortir de soi.
Alors, parmi les photographes qu'on expose, il y en a encore beaucoup qui continuent à travailler en argentique, hein, chez nous, hein, parce que ça participe de ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'un photographe documentaire, souvent il n'a pas envie de voir ce qu'il est en train de faire. Il y a le temps de la photo, il y a le temps d'analyse. Il faut digérer, il faut parce que quand on fait une photographie, qu'on regarde directement son écran, on perd le fil de ce qu'on est en train de faire. Hein. Alors j'aurais deux conseils à donner aux gens qui font de la photographie, c'est d'essayer de photographier avec leur appareil numérique comme ils faisaient avec leur appareil argentique, c'est-à-dire en comptant les photos, en pensant qu'elles sont payantes plutôt. Donc comme ça déjà, ils essaieront de comprendre pourquoi les photos sont bonnes, pourquoi elles sont mauvaises, ils en feront beaucoup moins, elles seront meilleures. Et ensuite de les archiver avec une infinie précaution et de les imprimer sur un papier stable, parce que ce qu'on prédit tous, c'est la fin des albums de famille. Et ça, c'est un pan de la mémoire collective qui va disparaître. Vous vous souvenez des photographies de vos parents dentelés, tout ça, c'est une merveille à regarder. Et bien maintenant, il ne faut pas que ça disparaisse, ça. Il faut que les gens continuent, même si le numérique est là, on peut pas, c'est quelque chose de formidable. Il faut que qu'on soit conscient que ces images-là sont un patrimoine.
Alors justement, vous parlez d'albums de famille, mais juste avant la pause musicale, je voudrais saluer et accueillir Rodrigo Gómez Rovira.
Hola. Hein? Buenos días.
Buenos días. Bonjour, compañero. Podemos tomar una foto? Qu'on en parlera tout à l'heure.
Con mucho gusto.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
La Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon vous propose cette émission en direct depuis cette image singulière, festival très particulier qui nous ouvre des fenêtres. Je dis des fenêtres parce que c'est des regards croisés à la fois d'ici et d'ailleurs. Et parmi l'ailleurs, quand on rentre dans ce chez où il y a cette exposition, compañero, le podemos tomar una foto. C'est ce qui frappe en premier. Alors je me retourne vers vous. Bonjour Rodrigo.
Bonjour.
Qu'est-ce que
t'as ? Muy bien, merci, très bien.
Voilà, vous parlez très bien français, vous avez laissé du suspense comme ça dans l'oreille de l'auditeur.
C'est-à-dire que l'espagnol et le français, pour moi, est une seule langue, c'est pour ça que...
Voilà, c'est vrai que c'est vous êtes enraciné dans ces deux cultures, et cette photo qu'on voit quand on entre, c'est l'album de famille. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pas les personnages qui sont au milieu, c'est les deux personnages qui sont sur le côté. Et j'ai trouvé ça comme une sorte... Alors, c'est une interprétation, vous me direz. Hein. Du côté gauche de la photo en rentrant, on voit un militaire qui regarde. Et du côté droit, il y a une petite fille qui jette un petit regard. Alors, on dirait il y a à la fois l'oppression et l'espérance.
Oui, oui, c'est la profondeur que produit cette image. Effectivement, il y a la scène au premier plan, qui est cette situation de famille. Et puis, il y a derrière... Ce que vous décrivez. Alors, à ce moment-là, effectivement, aujourd'hui, dès qu'on voit un militaire au Chili, c'est l'oppression. C'est normal que ça soit comme ça, puisqu'il y a eu 17 ans de dictature. Mais à ce moment-là, Allende était président. Et au moment de cette photo, il se baladait dans la rue où il habitait un dimanche matin. Et il y avait deux, trois militaires qui l'accompagnaient de loin parce que c'est le président de la République et qu'il le surveillait.
Alors c'est un miracle cette photo.
Oui.
C'est parce que oui. Normalement elle ne devrait pas être là aujourd'hui.
Oui, oui. Vous avez
raison. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette photo ?
C'est une photo qui au moment de l'acte photographique était très simple. C'est-à-dire on était avec ma famille, on allait déjeuner chez ma grand-mère un dimanche, et sur notre route, il y avait Allende qui prenait l'air dans la rue. Et donc mon père s'est arrêté. Mon père participait de tout le mouvement culturel, politique de l'époque et qui soutenait Allende. Et à travers la fenêtre, il lui dit « Compañero, ¿le puedo tomar una foto ?» Et Allende a traversé la rue vers nous. Et il nous a dit « Faisons une photo en famille plutôt ». Donc c'est là que s'installe cette situation qu'il y a sur l'image. où il y a ma mère avec mon jeune frère dans ses bras. Il y avait un monsieur qui regardait la scène et qui s'est approché de mon père et qui lui a dit « S'il te plaît, laisse-moi être sur la photo ». En 1972, l'acte photographique n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, vous l'avez signalé tout à l'heure. Et c'est là que mon père a fait cette photo. Et ensuite, la photo a été accompagnée par l'histoire du Chili, puisque arrive le coup d'État, les militaires viennent chez nous pour chercher mon père, pour l'emprisonner. Ils ne trouvent pas mon père, mais ils trouvent cette photo. Et ça nous vaut l'exil. Et cette photo nous a accompagné toute notre histoire de famille, et elle résume aussi l'histoire d'un pays.
Alors, c'est, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on le voit là, la photo n'est pas statique. C'est une histoire, et le fait de la regarder, donc ce jeune garçon qui est là, c'est une manière à la fois de regarder dans le rétroviseur, c'est l'histoire, et en même temps le présent, puisque vous avez participé aussi par votre témoignage, par votre engagement à travers la photo, de relire à la fois le passé et puis aussi le présent.
Tout à fait. Cette photo, elle résume un petit peu et elle définit ce qu'est la photographie. C'est-à-dire la photographie, initialement, c'est cette rencontre avec la réalité, entre le photographe et la réalité. Et puis après, il y a une épaisseur que donne le temps. Et chaque image a différentes épaisseurs. Celle-là, elle est profonde.
Et aujourd'hui, donc, Rodrigo, si on faisait du reportage audio-photographique, oui. Si vous deviez, de la même manière, symboliser le Chili aujourd'hui, vous avez déjà une idée de ce que vous pourriez présenter comme photo ? Ou ce serait la spontanéité qui créerait la photo ?
Vous voulez dire si je fais une photo aujourd'hui ?
Oui, qui serait représentative de ce qu'est le Chili aujourd'hui. Vous imaginez la faire de quelle manière ? Également sous la forme d'une photo de famille ou bien davantage sur une évolution du Chili économique, culturel ou autre ?
Non, je ferai la même photo, je crois. Il n'y a pas longtemps, à Valparaíso, il y a eu un incendie terrible. Et le lendemain, je suis allé sur les collines par instinct photographique, humain, et de voir ce qui s'était passé. Et les gens pleuraient leurs photos. C'est-à-dire, ils avaient toute la maison avait brûlé, toutes leurs affaires avaient brûlé, mais ils avaient perdu leurs images, leur album familial. Donc, quand vous avez une photo de votre père, que votre père est parti, l'image de votre père, c'est sa présence. Si vous perdez cette image, c'est un deuxième deuil. Et donc, avec le festival que nous faisons à Valparaíso, on a établi un projet où plus de 50 photographes sont montés dans les collines pour commencer une reconstruction de l'album familial. Et on a fait des centaines de photos de famille. Et cet acte photographique qui est ancestral pour la photographie est très simple, a une dimension beaucoup plus forte que celle que l'on imagine.
Alors, ce que je trouve aussi, il y a une évolution dans la mentalité contemporaine, c'est s'afficher, les selfies, il y a une sorte de voyeurisme, une sorte d'exhibitionnisme, et la photo que l'on voit dans cette exposition, parce que vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres, c'est une représentation collective, si vous pouviez nous dire d'abord, d'ailleurs, un petit mot sur vos compagnons, et puis la manière dont vous amorcer ce travail de la photo. À la fois, vous dites, je suis fidèle à cette photo ancienne, mais en fait, elle est toujours actuelle. Il y a une manière de regarder. C'est pas de l'exhibitionnisme, c'est pas du voyeurisme, c'est autre chose. C'est quoi ?
C'est une nécessité d'exister. La photographie, c'est aussi un moyen, il me semble, de pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire ici. où je suis situé, pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. La photographie permet au quotidien d'essayer d'avoir une approche de ces grandes questions philosophiques de l'humanité, non ? Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce que vous mentionnez des selfies, de Facebook, tout ça, ça reflète très très bien un malaise qui existe dans le monde où finalement on a du mal à s'asseoir sur un banc, à parler du quotidien. Et donc c'est un espèce de substitut un peu artificiel d'essayer d'exister à travers l'image, c'est très très fort. Et je crois que les photographes, d'une manière avec plus de temps, le long de leur vie, cherchent à comprendre le monde, à se relationner avec le monde, pour eux-mêmes essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici.
Alors, dans les différentes représentations photographiques des différents compagnons de route qui sont venus avec vous, j'ai pas trouvé mes repères. Hein. C'est-à-dire, quand je suis rentré dans Compañero Podemos Tomar una Foto, parce que ça me parlait, c'est mon histoire aussi quelque part. Et puis, en me promenant, j'étais un peu déstabilisé. Il y a un univers que je ne connaissais pas. Il y a un univers. Je cherchais le Chili, ce Chili que j'ai beaucoup aimé lorsque j'y suis allé. Mais en même temps, je me suis dit, mais tiens, c'est fait, j'ai un préjugé en tête. J'ai l'impression que je veux coller le Chilien dans ma représentation.
Mmh. Oui, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Gilles, puisqu'on a travaillé ensemble sur le choix des photographes et des images. C'est-à-dire que le Chili a une identité très forte par rapport à son histoire dramatique de la dictature. Et surtout en France, parce que la France a été très très proche et très très solidaire de ce qui s'est passé au Chili. Mais bien évidemment, le Chili a continué à exister. Et les tensions et les souffrances qu'il y a aujourd'hui, elles ont évolué aussi. Et elles ont évolué comme partout dans le monde. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire... C'est un héritage de la dictature, mais aussi pénétré, traversé, mélangé avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier.
Oui, parce que c'est des photographes assez jeunes, enfin, qui n'ont pas connu cette période-là.
Il y a des photographes qui sont nés une fois que le Chili était revenu à la démocratie.
Et donc, par conséquent, vous, avec le recul que vous avez, comment situeriez-vous justement cette évolution photographique par ces jeunes photographes ? Ils ont un regard neuf, effectivement, comme vous l'indiquiez. Et est-ce que vous, ça ne veut quelque part, pas que ça vous déstabilise, mais est-ce que vous ressentez cette innovation dans la photo chilienne ?
La photographie chilienne a eu un mouvement très très puissant et très fort qui a documenté la dictature. Au début... Les images qu'on a des premiers moments de la dictature, c'est presque que des photographes étrangers qui ont pu faire des photos. Ensuite, il y a un vide, parce que c'était un risque de mort de faire des images. Puis, dans les années 80, lorsque le peuple chilien a commencé à s'exprimer, il y a un mouvement très très fort de la photographie documentaire chilienne. Lorsque la dictature se termine, il y a une espèce de vide qui arrive parce que les photographes ne savaient plus quoi photographier. Il y avait avant, pendant la dictature, un objectif précis, clair, qu'il fallait dénoncer. Et depuis une dizaine d'années, il y a ces nouveaux photographes, ces jeunes photographes qui sont en train de grandir avec les possibilités que offre le monde aujourd'hui. Le Chili, c'est un pays qui est loin des centres du monde, des centres de la photographie du monde. C'est un pays qui est sur une limite. C'est un pays qui est géographiquement fonctionne comme une île avec la cordillère des Andes sur les 4 5000 km et sur l'océan Pacifique de l'autre côté. Et ces photographes sont en train de vivre un changement qui est en train de se passer au Chili. C'est-à-dire que le Chili, il y a beaucoup de gens étrangers qui viennent. Les Chiliens commencent à voyager. Et donc, ils sont en train de réfléchir et de comprendre le monde depuis leur univers, leur territoire, mais de manière connectée avec ce qui se passe ailleurs. Et donc là, il y a quelque chose qui me semble, et avec Gilles, on s'est tout de suite compris, de fort et d'intéressant. Et c'est ce qu'on donne à voir ici à l'exposition.
C'est ce qui m'a frappé quand vous parlez de Gilles. Généralement, quand on voit des photographes à la télévision, c'est pendant les journaux, ils se marchent dessus, ils se bousculent pour prendre une photo. Et là, on sent chez vous une complicité, une fraternité là, d'une manière. Alors moi je vous vois, donc j'ai vu les coups, l'échange de regards et les yeux ne trompent pas. Qu'est-ce qui fait la complicité entre vous deux?
C'est drôle parce que moi, avant d'inviter Gilles à notre festival, je connaissais pas le festival qui se produisait à Sète, et on m'en a parlé, et curieusement. On avait invité les mêmes auteurs sans se connaître. On était en train de développer les choses avec le même enthousiasme, la même énergie, le même désir de faire les choses simplement mais avec excellence. Et donc, je sais pas, c'est possible qu'il y ait des rencontres comme ça encore aujourd'hui.
Il n'y a pas de frontières, quoi.
Non, aucune. Et Gilles est arrivé à Valparaíso et. Il est descendu de l'avion, on s'est salué, on a laissé ses affaires dans sa chambre, et c'est comme si on avait été copains depuis 30 ans. Quoi.
Gilles, c'était une invitation ou c'était un voyage personnel que vous avez fait à Valparaíso?
C'était les deux. J'ai souvenir que quand je suis rentré, j'ai envoyé un mail pour remercier Rodrigo. Je lui ai dit « j'ai pas de mots pour te remercier », et il m'a répondu, il m'a dit « ne dis rien ». Et finalement, ça veut tout dire.
Alors, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans la nouvelle génération? Parce qu'il y a certaines photos qui sont violentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu la violence de l'époque de la dictature, mais il y a une violence. Alors, est-ce que c'est une violence citadine? C'est aussi un regard de citadin, d'urbain, dans ces photos.
Moi, je trouve que vous faites allusion au travail de Nicolas Wormul, qui je trouve très courageux son travail, et c'est un travail qui Nicolas a vécu à l'étranger, et tous les photographes qui sont exposés ici ont une relation avec le déracinement. Produit de ce qui s'est passé avec la dictature. Et le Chili, c'est un pays qui a un fort poids du que dira-t-on, c'est un pays conservateur avec un poids de l'Église très fort. Et donc, on se préoccupe beaucoup de l'image, d'être propre sur soi. Mais naturellement, comme tout être humain, il y a une arrière-cour qui peut être sale, n'est-ce pas? Et Nicolas, il va au-delà de cette vitrine et il raconte une réalité. Le Chili, c'est un pays, lorsqu'on le voit de l'extérieur, qui est en expansion, qui est un des pays qui fonctionne bien en Amérique latine, mais c'est un pays qui est sous tension, où les règles de fonctionnement du système économique est très dur. Les gens vivent surendettés. Il y a une réelle tension qui est sous-jacente. Et Nicolas, en photographiant sa famille, toutes les photos qu'il fait, c'est à son entourage. Lui, il habite à la campagne, et c'est le jardinier, le paysan qui est en face, c'est ses enfants, c'est sa femme, et il a le courage de faire les photos et ensuite de les montrer sans concession. Il y a une image qui, moi, me frappe beaucoup, parce que je connais très bien Nicolas, on est amis, et je connais sa famille. Il est marié avec une femme magnifique. lui, il a vécu en Suède, sa femme est suédoise, ils ont 4 enfants ensemble, c'est une famille fantastique. Et le portrait qu'il fait, sa femme est jeune, a 35 ans, et le portrait qu'il fait d'elle, on dirait une femme de 70 ans. Et donc, je trouve ça terrible et merveilleux à la fois de pouvoir arriver à trouver ça chez sa femme et à le montrer sans peur, parce que c'est la vie. La vie, elle est comme ça, elle n'est pas que belle.
Voilà, donc Nicolas Wormul, je le prononce bien.
Wormul, oui, très bien.
Paula López Droguet, Cristóbal Olivares et Tomás Quiroga.
Si.
Donc c'est vraiment des regards croisés, des regards posés à la fois sur un univers un peu particulier. Et Tomás Quiroga, moi ce qui m'a frappé... On dit que la nature a horreur du vide. Et j'ai l'impression que lui, il photographie le vide.
Oui.
Et c'est-à-dire, il me fait capter des instants que je n'ai pas l'habitude de voir.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que Thomas, c'est un jeune qui, par l'histoire de sa famille, a dû vivre, il a moins de 30 ans, il a dû vivre dans 8 ou 9 pays. Et en fait, il a une obsession... De trouver un lieu à lui qu'il trouvera peut-être jamais, et donc ça a peut-être une relation avec ce vide, effectivement.
Merci beaucoup.
Une question, Rodrigo. Vous parliez tout à l'heure d'un peu d'économie, si je puis dire,
oui.
Au Chili. Est-ce que, comme en France, il y a des agences de presse, ou bien est-ce que tous les photographes sont des photographes indépendants?
Les journaux au Chili, déjà, toute la presse chilienne appartient à deux groupes et il y a un monopole absolu. Il n'y a pas de presse, il y a très très peu de presse d'opposition à la puissance économique. Les photographes sont employés par les journaux et de cette manière, ils garantissent le regard qu'ils veulent montrer. Mais il se passe aussi ce qui se passe partout dans le monde. On travaille beaucoup avec les agences internationales qui ont des bureaux à Santiago. C'est difficile d'être photographe indépendant au Chili. Aujourd'hui, c'est difficile d'être photographe dans le monde entier. Être photographe indépendant au Chili, il faut être... Il faut être débrouillard, il ne faut jamais baisser les bras, il faut sans cesse avoir une énergie et une confiance infinie. Mais il y a beaucoup de photographes qui le font et qui le font très bien.
Bien, mais écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va arrêter un peu cette interview.
On invite les auditeurs à venir parce que vraiment, il y a des incontournables.
Je pense qu'il faut également, Gilles, il faudrait quand même donner l'adresse.
C'est gratuit. Hein.
C'est gratuit.
Toutes les expositions sont gratuites.
Dans un monde où tout s'achète et tout se vend, vous avez un espace de gratuité.
On est chez Jean Villard, hein, qui allait porter les grands textes aux ouvriers, donc on ne peut pas faire moins.
Eh bien, on va se quitter aussi avec des sonorités qu'on entend lors de l'exposition. Et puis, c'est un groupe aussi qui, au niveau français, au niveau de la France, de la musique, a marqué, Quila Payún.
Oui.
Je pense que ça a marqué Rodrigo également.
Oui, parce que c'est mes parents.
Sa fe cosa.
Et donc, Gilles, ce festival comporte plusieurs aspects, et notamment un projet avec Mediapart.
Oui, il y a un peu plus d'un an, on avait fraternisé depuis deux ou trois années avec Mediapart, qui, pour moi, je ne sais pas si ça plaira à Sophie, mais Dufaux, c'est le Libération des années 2010. Quoi. C'est une petite structure très nerveuse, très efficace, et qui a trouvé une économie viable sur le net, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et puis, je sais pas, il y avait peut-être une communauté d'opinion. Je sais pas, on a invité Louis Plenel à deux ou trois débats. Et puis finalement, on a réfléchi ensemble au départ pour redonner sa chance à Internet parmi les photographes, puisque Internet a été très cruel avec les photographes. Les images se promenaient partout, sans droit d'auteur. C'était à la fois tout à fait pratique pour véhiculer les images, mais en même temps ça détruit l'économie. Et donc on a réfléchi à l'idée d'un site internet qui redonnerait sa chance, comme je le disais, à Internet. Et il y avait aussi ce constat que les médias français travaillent très peu sur ce temps précis de la crise, puisque le pays est vraiment en difficulté depuis des années, et il faut documenter ça pour les sociétés futures. C'est extrêmement important. Donc on trouvait que les médias en général faisaient pas leur travail, mal leur travail, les institutions encore moins. Et donc comme asset, rien n'est impossible. On s'est lancé dans cette grande aventure, et ne pouvant pas le faire seul, évidemment, Mediapart a été d'un grand soutien, à la fois pour structurer le projet, pour lui donner vraiment les coups de rein nécessaires qu'on nous on piquait du nez. Et maintenant, c'est un équipage qui fonctionne à deux, et on espère peut-être élargir un petit peu faire entrer des partenaires institutionnels qui donneraient une assise financière à ce projet, dont le but est de vraiment, pendant trois années, de documenter la France en crise, les Français dans la crise, avec une grosse exposition finale qui serait présentée avant les élections. C'est très important, ce moment-là, avant les élections de 2017. Et un beau livre. L'idée utopique, c'est la France aux 1000 photos. On aimerait avoir une exposition avec 1000 images dans un lieu très symbolique de la crise. Je ne sais pas, une usine fermée ou quelque chose comme ça.
Donc, Madame Dufaux, vous êtes venue ici à Sète pour valoriser ce partenariat. Ma question est, parce que Mediapart, on connaît bien sûr, mais on connaît plutôt sous la forme d'écrit que sous la forme photo. Pourquoi ce soutien à la photographie ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que Mediapart est surtout connu pour ses grandes enquêtes, ses révélations, ses longs récits enquêtés. Mais il ne faut pas oublier, Mediapart, depuis le début, a quand même toujours soutenu le photojournalisme. C'est Louis Plenel qui dit que c'est une autre façon d'écrire le réel et de révéler la société. Dès le début de la fondation de Mediapart, alors c'est vrai qu'au début, on a cherché un modèle financier, donc on s'est surtout préoccupé des révélations qu'on pouvait faire pour trouver des abonnés. Mais en fait, chaque semaine sur Mediapart, on met un portfolio en ligne. Alors qui, justement, quand Gilles parle de Libération, où j'ai travaillé aussi avant de travailler à Mediapart, donc la référence me convient tout à fait. En fait, l'idée n'est pas d'illustrer un article, de mettre une petite lumière dans un coin qui ferait que ça serait rouge et qu'on se dirait que les gens iraient voir parce qu'il y aurait une petite lumière dans un coin. Le récit photo sur Mediapart, c'est vraiment une histoire en images avec des légendes et avec son contexte, quoi. Mais voilà, c'est les 10-15 photos qui priment et qui sont isolées d'un texte qui peuvent venir en accompagnement, mais qui peuvent aussi arriver comme, là justement, cette semaine, on a le portfolio de Vladimir sur le Zanzibar. Bon, ben voilà, c'est une histoire de ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on avait voulu aussi, quand on avait discuté avec Gilles de qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Internet pour pour valoriser le photojournalisme et la photo documentaire, moi je me disais, voilà, ce serait très bien d'avoir une carte avec des points où sont les photographes, qu'est-ce qu'ils font, et que pendant deux ans et demi à peu près, hein, c'est la durée du projet à peu près celle-là, qu'on montre aussi le travail en progression. Parce que ça, c'est aussi important, je trouve, que justement, comme Gilles disait dans la première partie de l'émission, tout n'est pas immédiat, tout n'est pas... il y a du travail, donc là, il y a les blogs des photographes sur le site où les photographes racontent, postent au fur et à mesure de leurs travaux ce qu'ils ont fait, enfin, pas forcément l'intégralité, mais des images qui leur semblent révélatrices du moment où ils sont de leur travail. Et puis après, il y a une autre partie qui s'appelle les reportages terminés, où là, on voit une sélection de photographies qui documentent la région où ils étaient. Donc, il y a aussi ce dialogue entre le quotidien, on va dire, et puis le reportage documentaire, qui est aussi intéressant. Troisième chose que je voulais dire par rapport à notre association, c'est qu'on est aussi, d'une certaine façon, on s'est dit, on n'avait pas d'argent, parce que Mediapart, même si Mediapart gagne de l'argent, Mediapart ne peut pas tout subventionner, tout payer, tout ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on le fasse, et comment est-ce qu'on va le faire? Donc comme on est quand même au 21e siècle, on s'est dit, on va faire du financement aussi collaboratif. Donc on fait des campagnes de soutien, de dons, via le site KissKissBankBank, qui permettent aux internautes de donner de l'argent, de 1 euro à ceux qui veulent, enfin, mais ça démarre à 1 euro, pour soutenir le projet. Et l'argent qu'on récolte comme ça nous permet en fait de payer des droits d'auteur aux photographes. Donc ça, c'est important. C'est pas de l'argent pour des expositions ou pour parader, c'est vraiment pour payer des droits d'auteur aux photographes. Donc il y a cette espèce de triptyque, image singulière, Mediapart et les internautes. Et ça, c'est très important, parce que les projets peuvent pas se faire aujourd'hui s'il n'y a pas de l'enthousiasme, s'il n'y a pas de l'intérêt. On pourrait toujours éditer un petit bouquin à compte d'auteur, mais c'est pas ça. Le projet est vraiment de s'emparer de ce qui se passe aujourd'hui.
Il faut dire que le projet est très ambitieux, puisqu'il a pour titre « La France vue d'ici », et c'est donc une couverture photographique de toute la France.
On fera pas toute la France, faut pas non plus rêver. Enfin, on essaiera de couvrir tous les territoires, mais on peut pas photographier les 60 millions de Français. C'est pas, enfin, même ça n'aurait pas d'intérêt. À un moment donné aussi, il faut sélectionner. Il y a deux choses. D'abord, on photographie ce pays à ce moment-là, c'est-à-dire dans une crise sociale et, enfin, d'abord financière en 2008, qui est devenue économique, qui devient maintenant sociale. On la photographie, ce qui veut dire qu'on va photographier forcément que des chômeurs, que des gens sans emploi, que des intérimaires. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui en France. Donc il faut aussi qu'on montre ce panel-là. Il y a des gens qui continuent à travailler dans les écoles, comme ils le faisaient avant la crise financière. Donc on va documenter cette France comme ça, mais c'est vrai qu'on documente aussi une France qui souffre. Parce que il faut pas. Enfin, voilà. Maintenant, on est quand même à 5 millions de chômeurs. On est quand même. C'est pas. On vit aussi dans ce pays-là. Donc, on va avoir une France contrastée. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore vu Paris. Donc ça, je suis assez contente. On commence, par tous les lieux en province. Bon, on a encore beaucoup de trous, mais on va avoir 6 photographes qui vont nous rejoindre au moins. Ça dépend de la collecte qu'il y a en cours là. Plus on aura d'argent, plus on aura de photographes. Mais on aimerait en avoir 6 là qui nous rejoignent dès juin. Et puis après, encore, on continuera, quoi, jusqu'en...
Donc là, vous avez anticipé sur ma question, c'est-à-dire combien de photographes participent à l'équipée, donc 6, mais...
Là, pour l'instant, il y en avait 4 au début, il y en a eu... aujourd'hui, on est à 9, on aimerait en intégrer 6 là, et à terme, en avoir une trentaine, voilà, 30.
Alors, des photographes français ou des photographes venant d'horizons différents? Parce que la France vue d'ici...
Non, d'horizons différents. D'ailleurs, Vladimir en est l'exemple parfait. Non, vu d'ici, c'est-à-dire que c'est un peu... Enfin, on se demandait comment appeler ce projet, donc il fallait quand même qu'il y ait le mot « la France ». Alors, les dom-tom font partie de la France, donc il faut aussi qu'on documente les dom-tom. Mais la France vue d'ici, c'est aussi un clin d'œil à la France vue du ciel. C'est-à-dire, bon, on peut la voir d'en haut, on peut voir les paysages, on peut voir... Nous, on voulait les Français, en fait. Voilà, l'image des gens qui sont ici, sur ce territoire. Et c'est ça qu'on... C'est un peu un clin d'œil à ces grands projets où, finalement, la France est belle, elle a des beaux paysages, mais on la voit pas, quoi. On voit pas les Français.
C'est vrai que moi, la première réaction, j'avais pensé à une expression d'un homme politique qui disait la France d'en bas. Et là, c'est la France vue d'ici. Hein. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, on a eu du mal à trouver un nom parce qu'il y avait beaucoup de noms déjà achetés sur. Il y a des gens qui font collection des noms et qui les revendent après. Mais finalement, ça convient très bien. Et pour ce que disait Sophie, bon, c'est vrai que le projet part un peu de la province, donc c'est déjà symbolique d'une volonté de ne pas oublier. C'est aussi une carence des médias nationaux, hein, c'est que il y a très peu finalement d'histoires de gens de province, hein, hormis quand c'est des histoires qui concernent des politiques, etc. Donc les photographes qu'on choisit s'attachent à ces problématiques-là. On voit des vrais gens, mais j'aime pas du tout ce mot-là, mais et des choses qu'on ignore, parce que par exemple, on va sans doute faire entrer dans le prochain projet, en tout moins je l'espère, un photographe qui va travailler sur le problème de l'amiante. On a décidé de développer la problématique de la santé. L'amiante, c'est 200 000 morts à l'horizon 2020. 2020, c'est dans 5 ans, hein, si je sais bien compter. Donc 200 000 morts. Donc lui, il va partir, on aimerait qu'il parte de Dunkerque et qu'il fasse un road movie, on appelait ça road movie de l'amiante. C'est un nom tragique en même temps, mais il va aller de Dunkerque à la vallée de l'Eure où il y avait l'usine Eternit chez Michelin. À Arles, on est en train de regarder un petit peu tous les lieux où il y a énormément de malades, il y en a énormément. Il y a les veuves de l'amiante, il y a... Donc ça, par exemple, c'est un sujet qui nous plaît beaucoup parce qu'il permet de mailler le territoire. C'est un sujet qui est très rentable pour nous. Ça nous met plein de points sur la carte, donc c'est parfait.
Et puis en plus, ça documente aussi, parce que c'est ça, c'est l'incurie des politiques par rapport à ce problème. Donc c'est aussi montrer l'autre face, parce que Mediapart, on parle beaucoup de politique, mais assez peu finalement de des gens pour qui ces politiques.
Mais parce que c'est vrai que l'analyse de la France, la situation de la France, c'est à la fois tel ou tel journal, des statistiques, des chiffres, et puis là, en fait, c'est un regard. Et parmi ce regard, donc, a participé au projet Vladimir Vassilev. Dans les différents prospectus existants, il y a deux photos qui m'ont frappé, qui sont vraiment assez intéressantes de votre regard. C'est celle qui s'appelle le Quai de l'oubli, et puis le Zanzibar. Un contraste extraordinaire d'un côté de la couleur, et puis on a l'impression que c'est une vieille photo, hein, c'est une photo qui a été prise dans les années, je sais pas moi, les années 50, les années 40, et puis le Quai de l'oubli, c'est un peu comme vous le dites, c'est aussi un état de la France.
Oui, donc les deux sujets que vous venez de dire, le Quai de l'oubli et Zanzibar, ils sont à 7, ils sont pas loin l'un à l'autre. J'ai commencé le Quai de l'oubli il y a à peu près deux ans et demi. Il faut que je précise d'abord que je travaille sur des micro-sociétés, ce sont des ou tribus modernes, autrement des gens qui se regroupent à vivre, à survivre d'une manière ou d'une autre. Et Zanzibar aussi, ça fait partie de ce micro-société qui a un look vraiment des années 50-60, les anciens cabarets et tout ça, de la France que je découvre, hein, parce que je viens de la Bulgarie. Et qui est aussi un microcosmos très particulier où il y a la patronne, il y a toujours les mêmes gens qui viennent, les gens assez seuls. Et le bar au sud avec le café à Noro, il n'y en a pas beaucoup. Donc Zanzibar en fait partie.
Très bien. Et donc c'est une expérience que vous allez prolonger jusqu'au terme justement de ce projet final qui va aboutir donc avant les élections de 2017.
Voilà, donc le Zanzibar, je l'ai démarré il y a 6 mois, donc j'y vais 2-3 fois. Il faut savoir que pour sortir un sujet de commentaire, il faut vraiment, c'est surtout une relation humaine, donc il faut y passer du temps, et je pense le faire effectivement jusqu'à 2017, encore 2 ans.
Et l'espoir quantitatif du nombre de photos, vous avez une idée ou pas du tout pour l'instant? Parce que justement, on parlait de mitraillage photographique, alors que vous, c'est vraiment un reportage qui fait forcément que vous devez, si je puis dire, sélectionner et limiter les photos.
Disons que, comme je dis, un sujet se repose sur une relation humaine, donc il faut y être présent. Après, le nombre, je suis assez souvent présent, donc j'y vais 2-3 fois par semaine. Des fois, je prends des photos, des fois, je ne prends pas, mais il faut entretenir cette relation. Et des fois, je peux y partir avec une photo, elle va être la bonne. Des fois, je peux partir avec 100 photos et ça ne sera pas la bonne. Donc, La quantité, je ne peux pas vous dire, mais en espérant qu'il y aura de la qualité.
Très bien, bien, je pense qu'on ne peut que vous remercier d'une part d'être présent et d'avoir fait part de votre expérience et de celle que vous allez mener. Madame Dufour, moi je tiens à vous remercier d'être venue à notre studio pour expliquer un peu Mediapart et sa démarche. Et puis évidemment que tout le monde va retrouver au fil des numéros de Mediapart et de leurs abonnements tout ce que vous avez un peu expliqué.
Merci.
Oui, mais avant que vous ne partiez, ça ne s'arrête pas là. Il y a un appel à candidature aussi.
Voilà, alors il y a deux choses en ce moment qui se déroulent. Donc il y a un appel à candidature pour les photographes. Donc c'est sur le site lafrancevudici.fr. Donc là, vous verrez, il faut décrire un petit projet et mettre des photos qu'on a déjà fait pour qu'on ait un peu le regard du photographe. Ça, c'est tout expliqué sur le site. Donc ça, c'est pour les photographes. Et pour tous ceux qui s'intéressent au projet, il y a la campagne de dons sur KissKissBankBank ou aussi sur le site La France Vue d'ici qui vous ramène sur le site du KissKissBankBank. Merci beaucoup.
Sur quel site on peut voir les photographies de Vladimir ?
Sur La France Vue d'ici. Et puis aussi sur Mediapart. En ce moment, sur Mediapart, il y a les photos du Zanzibar. Une sélection des photos du Zanzibar.
Merci à vous deux.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, on a la chance d'avoir aussi le photographe, on va dire, non pas de l'expo, mais qui, lui, a fait la photo qui est sur le flyer de l'expo. Stéphane Lavoué, bonjour.
Bonjour.
Et donc, je disais que c'est vous qui avez fait cette photo qui est censée, d'une part, évidemment, qui attire l'œil et qui est censée faire venir un maximum de gens lors de cette magnifique exposition et festival.
Tout à fait, c'est une photo qui est issue de la série qui est exposée à la Maison de l'Image documentaire. Une série sur un royaume aux États-Unis, le royaume du Nord-Est, qui est une petite enclave royaliste dans l'état du Vermont, à la frontière avec le Canada. Alors c'est une région qui n'a pas d'existence administrative réelle, mais qui a une identité que les gens se sont appropriés. J'ai découvert cet endroit il y a quelques années, alors que je rendais visite à des amis américains qui avaient décidé de prendre leur retraite à la campagne, en achetant une maison en haut d'une colline. Et en arrivant à cet endroit-là, ils m'ont dit que je venais d'entrer dans un royaume. Et j'y ai découvert un monde particulier, avec des gens atypiques, recherchant pour certains, et pour beaucoup, une autonomie, une autosuffisance alimentaire, mécanique, des agriculteurs qui reviennent à la terre et qui refusent la mécanisation en réimplantant des systèmes d'exploitation d'une autre époque, avec des buffles, avec des chevaux de trait, en cuisinant en feu de bois, en se chauffant en feu de bois dans une région où pendant plusieurs mois de l'année il fait jusqu'à moins 35.
Et ça vous a donné l'idée de faire donc cette série de photos qui sont exposées ici?
Voilà, j'y suis allé trois ou quatre fois cette année, avec une idée en tête, essayer de retrouver le roi de ce royaume et de construire en fait une sorte de conte photographique un peu déglingué avec les personnages que j'ai pu y rencontrer. Le chasseur d'ours qui chasse l'ours avec son arc et ses flèches, un taxidermiste fameux de la région, une jeune femme de 18 ans fascinée par la viande et la chasse et qui a décidé de devenir bouchère.
Donc c'est un vrai univers à découvrir et on ne peut pas en parler avec des mots parce qu'il faut venir voir les photos. C'est un univers qui s'ouvre comme ça, de feuillet en feuillet. Et puis c'est un royaume qu'on ne connaît pas. Donc vous nous invitez vraiment à découvrir un autre monde.
Oui, je vous propose un voyage fantastique dans un autre temps, mais aux États-Unis.
Merci beaucoup. On arrive là, vraiment la course, on n'a pas vu l'heure passer. C'est le moment, non pas de se quitter, mais de se donner rendez-vous dans les différents lieux à 7 pour le festival Images Singulières. C'est toujours très difficile, hein, je ne sais pas, je regarde mon complice, de trouver les mots pour dire leur senti. Mais ce que je peux partager avec vous, c'est que j'ai ressenti en visitant les différents lieux, c'est la passion. La passion d'un regard, la passion de l'autre, la passion du monde dans lequel on est. Donc c'est vraiment... Le festival porte bien son nom, Image Singulière. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe qui nous a accueillis sur ce beau site, C'est Toi. Et puis, j'espère qu'on se croisera.
Voilà. Merci beaucoup.